Écoutez, moi je tiens, j'ai mis mon masque hein, parce que nous sommes deux dans le bureau, donc désolé, bonjour. Donc je tiens à remercier la CAF des Alpes-Maritimes et la CNAF pour leur confiance dans ce projet de recherche, comme je remercie tout particulièrement Marion Magnier pour la coordination du projet, coordination qui a été tout à fait agréable et efficace. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler, mon collègue Alessandro Bergamaschi et moi-même, donc des expériences des jeunes en ligne, mais aussi hors ligne, puisque l'objet de la recherche était la socialisation des jeunes. Et en ce qui concerne les pratiques numériques, nous allons plutôt nous intéresser à la question de la cyberhaine. Donc si tu veux bien tourner, s'il te plaît, Marion.
Oui. Ça va venir, je pense.
D'accord.
Un petit décalage.
Merci. Donc,
Voilà.
pourquoi est-ce que nous nous sommes particulièrement intéressés à la cyberhaine? Eh bien, parce que diverses recherches, que ce soit à l'étranger, dans le cadre du groupe EU Kids Online, qui rassemble donc une trentaine de pays au niveau européen, mais aussi en France, des recherches que j'ai pu mener au préalable, montrent que la haine en ligne impacte réellement les activités et la qualité des relations des jeunes. Et quand je parle des jeunes, je parle des 12-20 ans, hein, puisqu'on a à peu près, dans une recherche préalable, j'ai 40% des jeunes qui déclarent avoir été exposés à des contenus haineux en ligne. 14% d'entre eux sont victimes et 5% se déclarent auteurs. Et en France, l'inquiétude au sujet donc des questions d'incitation à la haine, que ce soit en ligne ou hors ligne, donc augmente en raison d'un contexte particulier qui est celui des attaques terroristes, de l'augmentation des groupes activistes de type ultra-right et d'une hostilité grandissante, comme on peut le constater à l'encontre d'une religion particulière, qui est la religion musulmane, et des migrants. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de nous intéresser à cette question de la cyberhaine. C'est aussi parce que ces dernières années, c'est le type de cyberviolence qui est le plus en augmentation au niveau européen. En tout cas, c'est ce que constatent d'autres chercheurs qui s'intéressent au sujet, des chercheurs notamment finlandais, hein, Atte Oksanen et Monsieur Reisenen, qui ont mené une recherche en Allemagne, en Finlande, en Angleterre et en France aussi. On constate la même chose au niveau des États-Unis, donc il nous semblait primordial de nous en préoccuper. Donc Marion, si tu veux bien, merci.
A marché? Non.
Non.
En fait, il y a un petit décalage de temps.
D'accord. Alors,
Voilà.
premièrement, il me semblait important de préciser de quoi nous parlions quand nous parlons de cyberhaine. Et là, j'ai mis sur donc la diapositive qui est affichée la définition de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, hein, qui nous dit que donc les discours de haine désignent l'usage. Enfin, que la cyberhaine, pardon, est un discours de haine qui désigne l'usage d'une ou plusieurs formes particulières d'expression, donc l'appel à la promotion ou l'incitation au dénigrement, à la haine ou à la diffamation à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes, ainsi que le harcèlement, les injures, les stéréotypes négatifs, stigmatisation, menaces à l'encontre de toutes ces personnes et toute justification de ces diverses formes d'expression fondées sur une liste non exhaustive de caractéristiques ou de situations personnelles englobant la race, la couleur de peau, la langue, la religion, les convictions, la nationalité ou l'origine nationale ou ethnique, ainsi que l'ascendance, l'âge, un handicap, le sexe, le genre, l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Donc vous voyez, le spectre est assez large. Pour cette recherche, nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement à la cyberhaine qui se centre sur les questions d'origine ethnique, qui traduit donc qui s'appuie sur de la xénophobie plutôt et sur des critères religieux. Pourquoi? Parce que c'est le type de cyberhaine qui est justement le plus en augmentation ces dernières années. L'une des particularités de la cyberhaine, c'est qu'elle agresse non seulement les individus, mais aussi la communauté à laquelle ils appartiennent. D'ailleurs, quand on interroge les jeunes, bien souvent, ils disent ne pas rapporter à leurs parents les expériences de cyberhaine dont ils sont victimes pour protéger leurs parents, car dans leur discours, leurs parents sont déjà victimes de discrimination dans la vie réelle et ils ne veulent pas en rajouter. Donc, c'est une forme de violence qui agresse les individus et leur communauté d'appartenance, qui constitue une menace pour la cohésion sociale, puisqu'elle se repose sur une hostilité intergroupe, en tout cas une mise à l'écart d'un groupe donné qui est considéré comme représentant un danger pour le groupe qui agresse. Elle incite à la violence hors ligne. Et elle génère de la peur, de la colère, de la haine et de la tristesse et est source de violence. En ce qui concerne donc la recherche que nous avons menée, donc Alessandro Bergamaschi et moi-même, eh bien cette recherche avait pour objectif, donc deux objectifs. Si tu veux bien passer à la suite, s'il te plaît, Marion.
C'est bon?
Non.
Ah, c'est encore la suivante?
Oui, mais là, rien ne bouge. Voilà, encore. Voilà, merci beaucoup. Donc, il s'agissait pour nous d'étudier la qualité des relations en ligne chez les jeunes et donc plus précisément étudier et mieux comprendre l'implication des jeunes dans la cyberhaine, mais bien sûr d'étudier de façon plus générale la qualité des relations sociales et notamment la question de la relation dans les institutions. Donc aujourd'hui, nous nous centrons essentiellement sur ce qui se passe en ligne au vu de la thématique de notre réunion. Donc, nous avons procédé par enquête autodéclarée, c'est-à-dire que les jeunes ont complété un questionnaire en ligne dans leur établissement scolaire, donc dans la salle informatique, donc directement sur ordinateur. La recherche, la collecte de données a été réalisée par notre collègue Jimmy Steff, qui donc est aussi membre de l'URMIS. En tant qu'assistant de recherche, les questions de confidentialité et les objectifs généraux, bien sûr, ont été présentés aux jeunes. Outre ces questionnaires complétés en ligne, nous avons mené des entretiens. 25 jeunes ont accepté de participer à ces entretiens. On les a sollicités dans le cadre du questionnaire en leur demandant en fin de questionnaire s'ils étaient prêts à participer à un entretien avec les membres de l'équipe de recherche et ils ont laissé leurs coordonnées. Et puis, nous avons aussi mené dans le cadre de cette recherche, mais nous ne l'aborderons pas aujourd'hui, des entretiens avec des parents. Iman Ben Lagdar, qui est aussi donc à l'URMIS, docteur en sciences de l'éducation, a rencontré et a organisé donc 4 focus group avec l'aide bien sûr de la CAF des Alpes-Maritimes avec des parents, essentiellement des mamans. En termes éthiques, l'accord parental et celui des élèves donc a été requis et nous avons soumis le questionnaire à la CNIL. Marion, s'il te plaît. Alors, en termes d'échantillons, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, hein, nous avons donc 52% de garçons, 47% de filles. L'âge moyen des jeunes interrogés était de 15 ans. Nous avons interrogé donc des jeunes en collège et en lycée, mais c'était essentiellement, majoritairement, pardon, des jeunes de lycée avec un milieu social, on dira bas pour un tiers de l'échantillon, moyen pour 40% et supérieur pour 26% de l'échantillon. Le milieu social étant basé sur la CSP, la catégorie donc socio-professionnelle des parents, suivant la nomenclature de l'INSEE. En termes d'origine, hein, nous avons donc dichotomisé notre population en élèves ayant une origine majoritaire et une origine minoritaire. Donc, ceci a été construit à partir du lieu de naissance du jeune et de ses parents. Donc, nous basant sur des études qui avaient déjà travaillé sur le sujet. Notamment les travaux de Bervelt, par exemple. Et donc, la répartition de l'origine majoritaire, ce sont les jeunes qui sont nés en France et dont les deux parents sont nés en France, et les minoritaires sont les jeunes qui sont soit nés à l'étranger, soit dont un des deux parents, au moins, est né à l'étranger. Donc, diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, au niveau du questionnaire, notre questionnaire a interrogé donc, les caractéristiques de la sociabilité dans la vie traditionnelle des jeunes, hein, c'est-à-dire la vraie vie, hein, si on peut dire, les pratiques digitales et expériences en ligne, hein, les expériences de discrimination entre pairs en milieu scolaire et le sentiment de francité, les opinions personnelles, c'est-à-dire sur leurs pratiques religieuses, la confiance interpersonnelle et institutionnelles, leurs attitudes envers les questions posées par l'immigration internationale, les représentations du racisme, les représentations de l'éducation scolaire comme moyen de lutte contre la xénophobie, la qualité de l'expérience scolaire et voilà, en gros. Hein. Donc aujourd'hui, nous nous centrons essentiellement sur les expériences de Cyberhen et puis sur la confiance dans les institutions, notamment, et les expériences en milieu scolaire, notamment les expériences de discrimination. Au niveau des pratiques numériques, très rapide, donc nous avons demandé aux jeunes s'ils avaient déjà visité des sites qui cherchaient à les faire adhérer à des idées contre soit une personne en raison de sa couleur de peau ou son origine, soit une religion en particulier, soit les étrangers. Et vous pouvez voir donc sur le premier graphique, hein, donc en orange ce sont les filles, en bleu ce sont les garçons, ce sont des pourcentages que donc les garçons sont plus nombreux que les filles à déclarer qu'ils ont visité ce type de site. Cela n'a rien de très étonnant. Quand on interroge les jeunes sur leurs pratiques numériques en général, on constate que les garçons sont nettement plus aventuriers que les filles, ils explorent nettement plus et ils explorent nettement plus de sites potentiellement dangereux. Nous leur avons aussi demandé s'ils avaient été contactés par un groupe haineux, c'est-à-dire un groupe organisé visant à les faire adhérer à ce type de choses. Il faut savoir que ces groupes organisés sont très actifs vis-à-vis des jeunes, ils préparent la relève et ils tendent à les attirer en organisant des combats, en organisant des concerts et par donc par des activités de type ludique ou récréatif. Et ils sont parfois très ingénieux. Il y a 2 ans, par exemple, sur le canton de Genève en Suisse, un groupe haineux organisé qui s'appelle Kalfingrad avait réussi à s'infiltrer sur l'intranet de tous les lycées professionnels du canton et leur propagande par ce moyen-là. Donc, comme vous pouvez le voir, et c'est logique, nous avons là aussi plus de garçons qui ont été contactés par ce type de groupe que de filles. ce qui s'explique de par le fait qu'ils vont aussi plus souvent sur ce type de site, qu'ils les visitent. Et puis, quand on a interrogé les jeunes en entretien, mais aussi ce qui est ressorti dans les questionnaires, c'est que les deux groupes qui sont les plus souvent cités par les jeunes, CF de souche, donc français de souche, et puis ce qu'ils appellent encore le FN. Le Front National. Nous avons cherché à savoir si les jeunes donc étaient exposés à des contenus en ligne, sans les avoir cherchés, mais avaient été en contact avec des contenus haineux. Et donc, on se rend compte que, effectivement, plus du tiers des jeunes disent avoir été en contact avec ce type de contenu. Comme vous le voyez, hein, ils ne sont que 6% à avoir cherché ce type de choses. Les sites les plus souvent cités donc, sont ceux que je vous ai donnés tout à l'heure. Une minorité d'élèves, par contre, dit clairement avoir été contactés par des groupes organisés. Et on ne constate pas de différence significative selon l'origine des répondants. Ce peuvent être aussi bien des jeunes du groupe minoritaire que des jeunes du groupe majoritaire. Et les supports médiatiques les plus souvent cités en termes d'exposition sont Facebook, pour ceux qui vont encore sur Facebook. Hein. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, les applications les plus souvent utilisées sont Snap et Insta. Et puis aussi Twitter. Mais on se rend compte, quand on interroge toujours ces jeunes, que Twitter est souvent utilisé pour des jeunes qui sont impliqués dans des activités politiques ou des activités militantes, hein, à caractère politique, on dira. 8% des jeunes disent avoir visité un site raciste avec un site avec des contenus racistes ou xénophobes, et 9% donc un site à l'encontre d'une religion. Et toujours, les garçons sont plus nombreux que les filles. En termes d'expérience négative, donc vous voyez sur cette diapositive deux graphiques, deux figures, avec d'une part, ah zut, oui, pardon, donc avec d'une part les jeunes qui ont subi une victimation sur leur téléphone portable et les jeunes qui ont subi une victimation sur leur réseau social. Les filles, comme vous pouvez le voir, tendent à être plus victimes que les garçons. Et les analyses plus poussées montrent qu'effectivement, les filles sont plus à risque que les garçons d'être victimes. Toutefois, vous pouvez voir, donc c'est le pourcentage de victimes sur le téléphone portable, donc hein, c'est 5,2% de filles et des victimes et 4,6% des garçons, hein, 8,4% et 6,1% au moins une fois sur les réseaux sociaux. Le pourcentage global tourne autour de 12%, hein, de victimes parmi les jeunes interrogés. Nous avons interrogé, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, 2 900 jeunes. Toutefois, lorsque l'on est dans le cadre de victimations répétées, donc de type cyberharcèlement, on ne constate plus de différences significatives entre les filles et les garçons. Nous avons tenté de vérifier donc quelles étaient les variables les plus significativement associées au fait d'être victime. Et comme vous pouvez le voir, hein, donc le fait d'être une fille est significativement associé à la victimation. Le fait d'être scolarisé en collège, ainsi que le fait d'avoir été victime de rejet par les pairs au sein de l'établissement scolaire. Ce qui montre bien, hein, une fois de plus, je dirais, la relation certaine entre ce que les jeunes appellent eux-mêmes la vraie vie et puis la vie en ligne, et puis le fait que la cyberhaine et la cyberviolence en général soient des violences de proximité. Parce qu'on dit, oui, c'est une violence en ligne, donc c'est une violence distancielle. Pas vraiment, puisque la plupart des jeunes se connaissent, fréquentent le même établissement scolaire, à 72% selon certaines enquêtes, et y compris la même classe. En tout cas, ils gravitent dans les mêmes réseaux, où ils sont du même quartier, de la même bande, hein, ils gravitent dans les mêmes réseaux et se connaissent. Donc, vous voyez, les trois variables là, les plus associées sont celles donc, du sexe, celles du niveau de scolarité. Donc, les collégiens sont plus vulnérables, ils sont aussi plus souvent en ligne hein, quand on vérifie les pratiques numériques, et ils ont été victimes dans la vraie vie. En termes de gestion de la situation, nous leur avons demandé comment ils géraient une situation problématique en ligne et donc ce qu'ils avaient fait lorsqu'ils avaient été les récepteurs de messages haineux. Et là, l'on constate qu'un certain nombre de jeunes déclarent, et c'est la réponse la plus fréquente, notamment chez les garçons, mais aussi chez les filles, effacer le message. Ensuite, ils font un signalement sur tous les garçons, hein, comme vous pouvez le voir, et les filles semblent avoir plus intégré les recommandations en termes de prévention, mais aussi de gestion des affaires, des situations difficiles, puisqu'elles sont plus nombreuses à faire une copie d'écran afin de garder la preuve de ce qui leur est arrivé. Mais les victimes ont encore trop tendance à effacer ces messages et à taire ce qu'elles subissent aussi. Hein. Elles n'en parlent pas, notamment chez les garçons, pour des questions de statut, masculinité, virilité, comme ils le disent eux-mêmes. Les filles, par contre, déclarent une plus forte propension à répondre à l'agresseur ou aux agresseurs sur le même ton. Là encore, c'est un point à souligner en termes de prévention, hein, puisque l'on sait très bien que répondre sur le même ton accroît le risque d'escalade de la situation ou du conflit, voire cela peut mener à des situations de cyberharcèlement. Donc des conflits ponctuels qui peuvent tourner au cyberharcèlement. Ceci dit, quand on interroge les jeunes, et ceci je ne l'ai pas trouvé dans le cadre de cette enquête-là, mais dans le cadre d'autres travaux, ils assurent eux-mêmes une régulation des conflits en ligne. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, les conflits tournent essentiellement autour de la diffusion de messages du réseau auquel ils appartiennent vers des extérieurs de ce réseau, eh bien, ils organisent des sortes de petits tribunaux en ligne où ils se réunissent donc sur Insta, par exemple, ou sur leur application, et ils essaient de gérer le conflit entre eux. Je vais maintenant passer la parole donc à Alessandro Bergamaschi, qui va poursuivre sur la relation entre le monde du net et le monde traditionnel.
Très bien. Merci, bonjour. Vous me voyez, vous m'entendez correctement, je pense.
Oui, très bien.
Ok, très bien. Bon, je vais enchaîner directement avec la présentation des résultats, parce que donc à un moment donné, donc nous avons pensé qu'il était également intéressant de jeter un coup d'œil à ce qui se passe au niveau du monde traditionnel, donc des interactions dans le monde traditionnel, notamment parce que on s'est aperçu, conformément à ce qui ressort de la littérature internationale, que disons le monde du net et le monde traditionnels sont interconnectés. Bien, ce qu'on peut dire dans le cadre de cette parenthèse sur le monde traditionnel est que Tout d'abord, que l'implication dans la cyberarène est corrélée à la victimisation dans le monde traditionnel, au sentiment de victimisation dans le monde traditionnel, à une baisse des confiances dans les autres et dans les institutions, c'est-à-dire les deux indicateurs clés que nous avons utilisés pour mesurer, disons, la, entre guillemets, la solidité, la teneur du lien social. Et l'implication dans la cyberarène est également corrélée à des sentiments de xénophobie, de racisme, d'attitude hostile envers la diversité culturelle, religieuse, etc. etc. Et il est intéressant maintenant de, aussi de se questionner de quelle manière toutes ces conséquences de la cyberarène sont interconnectées, c'est-à-dire quelles synergies font ressortir. Avant de répondre à cette question, il est quand même important de... à mon sens, de commencer par une description de ces différentes conséquences. Tu peux tourner, Marion, s'il te plaît.
Oui, là, c'est bon.
Oui, c'est très bon, merci. Alors, tout d'abord, la victimisation dans le monde traditionnel et le rapport avec les pères et l'école. Nous avons, disons, interrogé les jeunes, nous leur avons demandé s'ils estiment d'avoir jamais été mis de côté, ostracisés, discriminés par leur père. Finalement, les sentiments de discrimination entre pères sont relativement réduits. Donc, finalement, nous avons 5% des jeunes qui estiment d'être victimes et nous avons 3% des jeunes qui avouent quand même d'avoir été des auteurs. À un moment donné, ils disent oui, ça m'est arrivé de mettre à l'écart, disons, le tel copain pour X raisons. Et principalement des raisons qui sont reliées, ça c'est intéressant, à l'origine religieuse, migratoire, culturelle, etc. etc. De la même manière, si on se tourne vers le sentiment des discriminations plus circonscrit aux expériences scolaires, on voit que dans certains cas, le sentiment des discriminations est mobilisé pour rendre compte d'une scolarité qui est problématique, qui est chaotique. Finalement, j'ai pas des bonnes notes, donc on m'a exclu, et j'étais convoqué. Et cela, à mon avis, est arrivé en raison de mes origines, est arrivé en raison de la langue que je parle à la maison, de la religion que je pratique, de la couleur de la peau. Donc, effectivement, on a estimé que si on focalise l'analyse sur la population dite minoritaire uniquement, c'est-à-dire, disons, qu'il y a une expérience directe ou indirecte avec la migration. Au sein de notre échantillon, on voit bien qu'au moins 15% disons, des élèves qui se démarquent par des scolarités chaotiques, ils estiment que cela est relié à disons, des formes de discrimination exercées par le système d'enseignement par rapport justement à leur origine. Les jeunes qui se démarquent notamment par des scolarités chaotiques et souvent expliquées, comme interprétées, comme je le disais, par des formes de discrimination, se caractérisent également par une baisse de la confiance envers les institutions et envers les autres, un autre indicateur clé pour la mesure du lien social, mais également d'une baisse du sentiment de francité. Et on voit bien donc que ces deux derniers indicateurs, donc cette baisse de confiance, baisse du sentiment de francité, concernent davantage des élèves qui ont des expériences directes ou indirectes avec la migration. Lorsque j'ai dit indirect, ça veut dire, je me réfère à des descendants d'immigrés, c'est-à-dire qui sont nés principalement en France, mais avec des parents, disons, nés à l'étranger. Disons, de la même manière, cette baisse des confiances et du sentiment de francité concerne des jeunes qui n'ont jamais participé à... à des actions, disons, d'éducation à la citoyenneté, voilà, et concerne davantage des jeunes insérés dans des catégories socioprofessionnelles moyennes et moyennes inférieures. Tu peux passer à la diapositive suivante, s'il te plaît. C'est bon?
Oui.
OK. Bien, et on voit bien que le rôle de la confiance, nous le retrouvons également dans le rapport à voilà, on évoquait justement le rôle de la confiance et voyons comment la confiance, finalement, la confiance, ses structures, quelle est un peu sa morphologie. Comme je commençais à l'évoquer tout à l'heure, donc nous avons mesuré deux formes de confiance, la confiance envers les institutions, appelée aussi confiance sociétale, et la confiance interpersonnelle. Et on voit bien que chez les jeunes, conformément à ce qui ressort en France depuis, je dirais, une quinzaine d'années, donc, alors, nous avons trois structures. La confiance sociétale se structure en trois gros types d'institutions. Tout d'abord, nous avons les institutions caractérisées par une proximité affective, comme la famille et les amis. Bon, et là, donc, le niveau de confiance exprimé est quand même important. Ensuite, nous avons la confiance qui est exprimée envers des institutions à vocation citoyenne, tels que, par exemple, la police, les hommes politiques, les journalistes, l'école, la sécurité sociale, la justice. Et, en somme, là, le niveau de confiance commence à être mitigé. Et si nous avons, disons, certaines institutions, telles que l'école, la sécurité sociale et la justice, qui, globalement, il s'en sort pas trop mal, je dirais, la situation est différente pour, par exemple, la police, les hommes politiques, les journalistes. Mais, globalement, c'est pas une situation... particulièrement dramatique. Par contre, le niveau de confiance est vraiment au plus bas par rapport lorsqu'il s'agit de juger les institutions les plus distales, les plus éloignées, comme les banques, les grands groupes financiers, les institutions religieuses et les grandes entreprises. Là, le niveau de confiance est extrêmement, extrêmement faible. D'une autre part, c'est aussi intéressant de questionner les jeunes sur comment ils perçoivent finalement les gens qui les entourent, les personnes qu'ils peuvent croiser dans la rue, au supermarché, dans un centre des loisirs, le voisin, les personnes qui habitent dans les quartiers, ce qu'on qualifie de confiance interpersonnelle. Nous avons globalement un niveau de confiance interpersonnelle exprimé qui est moyen. Effectivement, qui correspond à la moyenne sur une échelle à 10 points, où 1 correspond à une absence de confiance et 10 à beaucoup de confiance. Alors, globalement, je dirais que même si le résultat tel qu'il est présenté n'est pas des plus, disons, des plus positifs, on remarque quand même une amélioration de la confiance interpersonnelle de la part des jeunes depuis quelques années. Donc, parce que la même enquête, les mêmes indicateurs utilisés il y a une dizaine d'années exprimaient quand même un niveau de confiance interpersonnelle encore plus faible. Donc, probablement, il est en train de se passer quelque chose. Et on peut passer à la diapositive suivante. Et le rôle de la confiance, nous le retrouvons également dans le rapport à l'altérité. C'est-à-dire, nous avons mesuré aux moyennes d'une batterie très riche de questions ce qu'on qualifie de attitude intergroupe ou bien interethnique. Pour justement modéliser et mesurer quel est le niveau, entre guillemets, d'acceptation, voire d'hostilité envers les populations, envers l'altérité culturelle et religieuse et tous les enjeux sociaux, économiques et culturels que cela pose, est en train de poser. Ce qui ressort est que les craintes envers l'altérité, c'est-à-dire le niveau de préjugés, est sensible à l'âge. C'est-à-dire, ce sont les plus jeunes, des jeunes qui dans notre échantillon, qui pour le moment sont insérés dans le parcours collégien du collège, qui expriment des niveaux de préjugés, d'hostilité, de xénophobie plus importants par rapport aux plus, disons, des adolescents plus âgés qui fréquentent le lycée. Donc là, nous avons plusieurs facteurs explicatifs qu'on peut mobiliser, qui sont reliés au développement d'un esprit citoyen, qui sont reliés à des effets propres à la culture, disons, scolaire, et au renforcement des compétences, des capacités cognitives, mais qui sont également reliés à la capacité à manier avec beaucoup plus d'habileté certaines formes rhétoriques pour cacher, disons, des attitudes finalement hostiles. Ce qu'on appelle aujourd'hui le racisme voilé, subtil, etc., etc. De la même manière, les formes d'hostilité sont reliées à la socialisation de genre. C'est-à-dire les garçons expriment des sentiments d'hostilité plus marqués par rapport aux filles. On ne va pas rentrer dans les détails au cas où on pourrait revenir donc, lors de la discussion si c'est le cas. De la même manière, le préjugé donc, est sensible aux ressources économiques ou culturelles, c'est-à-dire plus on est situé en haut, disons, dans la hiérarchie sociale, dans la stratification sociale, et moins on se sent menacé. Les préjugés également, l'intensité du préjugé également reliée au niveau d'hétérogénéité des relations amicales. C'est-à-dire, les jeunes les plus intolérants sont des jeunes qui finalement baignent dans des réseaux de pairs qui sont très homogènes d'un point de vue, disons, social, économique et culturel. De la même manière, un résultat très, très intéressant, nous l'avons trouvé au niveau du rôle, disons, de l'éducation formelle. Parce que, disons, le niveau d'hostilité, effectivement, est influencé par l'implication des enseignants dans des actions interculturelles. On constate qu'il y a des effets, entre guillemets, disons, bénéfiques de réduction du niveau d'hostilité. Et enfin, comme je le disais à l'introduction, la confiance, c'est-à-dire moindre est la confiance et envers les institutions, envers les autres en général, et plus importants sont les niveaux, disons, d'hostilité envers l'altérité culturelle et religieuse. Alors, pourquoi est important, disons, cette modélisation? Parce qu'elle s'inscrit dans des mises en alerte, dans des alertes qui ont été, disons, mises en avant depuis quelques années de la part des grandes instances européennes, comme par exemple le département culture et éducation de la Commission européenne, mais également le European Network Against Racism. Tous ces organismes attirent de plus en plus l'attention sur la diffusion massive du racisme, de la xénophobie chez les plus jeunes. Donc, et disons, malheureusement, disons, nos résultats s'inscrivent un peu dans cette lignée. Et enfin, on peut donc passer à la diapo suivante, et je vais terminer cette parenthèse sur le monde traditionnel. Comment on peut conclure? Donc, comment on peut modéliser les différents, disons, conséquences de la cyberhaine? Comment on peut les modéliser finalement? On peut les modéliser de la manière suivante, que finalement, les sentiments de discrimination et d'exclusion dans le monde traditionnel, notamment lorsqu'ils sont vécus, disons, au sein de l'espace scolaire, génèrent une baisse des niveaux de confiance, de la confiance interpersonnelle, de la confiance sociétale, et cela est relié à l'intensification, disons, de la xénophobie, du racisme et de l'hostilité envers l'altérité. Ce qui, même si dans notre modèle, nous ne sommes pas encore arrivés à le prouver, donc, mais ce qui quand même entretient un lien important avec avec les premiers sentiments de discrimination et d'exclusion. Donc, finalement, nous sommes confrontés à un cercle un peu vicieux, donc, parce qu'il suffit très peu pour déstabiliser le lien social, et une fois qu'il est déstabilisé, qu'il est affecté, le sentiment de discrimination qui se génère continue à le détériorer, continue, disons, à le ronger. Voilà. Bien, je termine alors cette parenthèse et je repasse la parole à ma collègue. Merci.
Donc, si nous pouvons passer à la diapositive, merci. Donc, ce que l'on peut dire, hein, c'est que l'exposition donc, à la cyberhaine est aussi quelque chose à prendre en considération de façon très sérieuse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 30% des jeunes disent avoir été exposés à la cyberhaine. Et cette exposition à la cyberhaine est une forme de victimisation indirecte. Elle est associée à l'agression, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation forte entre le fait d'être exposé à des contenus haineux et le fait de passer à l'acte soi-même et d'agresser en retour. Et quand on interroge les jeunes, le fait d'être exposé à la cyberhaine génère chez eux exactement les mêmes sentiments, les mêmes émotions que chez les victimes. Les travaux sur la question de la victimation et de l'exposition à la violence, je pense notamment aux écrits de Nicole Kathleen, montrent que les conséquences post-traumatiques d'une exposition prolongée et régulière à des faits et événements violents constituent les mêmes, représentent les mêmes risques pour le bien-être, pour la santé psychologique des jeunes que ceux qui sont victimes. Comme on l'a vu, donc, suite à cela, donc, je soulignerai le besoin impérieux de renforcer et d'améliorer la régulation des contenus haineux en ligne. Nous avons la loi Avia qui donc, insiste, donc maintenant précise bien les choses en termes de retrait de contenus haineux en ligne. Ceci dit, on se rend compte que la mise en application de cette loi n'est pas aussi évidente que l'on pourrait l'espérer. La probabilité d'être victime est plus forte quand on est une fille, et donc par conséquent, la question du genre, parce qu'il n'y a pas que les filles, hein, là nous ne sommes pas intéressés aux questions concernant les jeunes donc, appartenant à la communauté LGBTQ+, mais la question du genre, ils sont eux aussi nettement plus victimes, puisque 70% des jeunes qui disent appartenir à la communauté homosexuelle disent avoir été victimes au moins une fois dans leur vie. Alors, pas forcément de cyberhaine, mais de cyberviolence. Donc, la question du genre devrait être prise en considération pour les actions de prévention. En tout cas, l'être de façon plus précise. Diapositive suivante. Merci.
Pas trop tarder à
conclure. On va terminer. On va terminer. La victimisation donc, en milieu scolaire, le cyberharcèlement et la cyberhaine sont fortement liés. Par conséquent, prévenir la violence en milieu scolaire est primordial pour prévenir la victimisation en ligne, dont la cyberhaine. Et on se rend bien compte que ce qui se passe dans le cyberespace, même s'il y a des caractéristiques qui lui sont propres, eh bien, représente bien souvent une extension de ce qui se passe dans la vie réelle. La gestion des situations problématiques en ligne reste à améliorer, puisqu'on a pu voir la façon dont les jeunes gèrent les situations, en tout cas ce qu'ils déclarent, montre qu'il y a encore des modes de gestion qui sont inappropriés et susceptibles de les mettre en danger. Et la diapositive, j'ai fini. Après, en termes de protection, je laisserai, comme le diaporama donc, sera diffusé, je vous laisserai en prendre connaissance par vous-même. Et puis, ça fera peut-être l'objet de la discussion. Merci pour votre attention.
Merci à vous deux. Et c'est bien ce que tu as terminer sur une question qui a été posée dans le fil de conversation, qui était de savoir si le PowerPoint pourrait être mis à disposition des participants. Donc, apparemment, ce sera le cas, donc merci. Avant d'ouvrir les questions, j'ai omis de vous présenter, comme il se doit, en donnant la parole. Donc, je vais le faire maintenant. Catherine Blaya, donc est professeure en sciences de l'éducation et directrice de l'Institut national supérieur du professorat. et l'éducation, l'INSPE de l'Université Côte d'Azur, donc attaché à l'unité de recherche sur MIS, et également présidente de l'Observatoire international de la violence à l'école, scolaire. Voilà. Et Alessandro Bergamaschi, donc maître de conférence en sociologie à l'INSPE également.
Si donc, je peux permettre, je ne suis plus présidente de l'Observatoire, je suis membre du comité directeur, mais plus présidente.
D'accord. Bon, alors autant pour moi. Bon, en tout cas, voilà, tu as longuement travaillé sur la violence scolaire. Voilà, donc on va prendre quelques questions. Dans le fil de conversation, c'est peut-être le mode le plus à privilégier, ou en levant la main directement. Pour prendre la parole. Pas de questions pour l'instant.
Il faut laisser décanter.
C'est ça, il faut laisser un petit peu.
Alors, pour lancer un peu le débat, moi j'aurais une petite question par rapport à l'échantillon de jeunes que vous avez pu entre guillemets interviewer. Vous avez dit que vous êtes allé dans un collège, c'est ça, si j'ai bien compris?
Collège et lycée.
D'accord. Et du coup, est-ce que c'est anonyme ou ils sont dans les Alpes-Maritimes?
C'est totalement anonyme.
Ouais. D'accord, ok. Voilà. Donc c'était dans un collège et un lycée.
L'enquête est dans 15 établissements scolaires. Situé dans l'Académie de Nice et aussi en partie dans l'Académie d'Aix-Marseille, et réparti entre lycée et collège, et qui ont été sélectionnés en concertation avec les services de la vie scolaire du rectorat, avec une extraction aléatoire des établissements et des classes.
Et une majorité de lycées.
Majorité des lycées, quand même, ça, oui.
D'accord. Ok, merci.
Oui, peut-être vous avez des... Donc, dans le diaporama, on a mis quelques références de vos travaux sur ce sujet. Peut-être que vous pourrez communiquer un petit peu des références... que vous avez écrit, ou des articles ou rapports.
Oui, bien là, nous le communiquerons. Et puis merci Jean-Luc là, qui vient d'afficher la couverture de mon dernier ouvrage sur la question.
J'ai levé la main, je peux prendre la parole?
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup. Moi, j'avais quelques questions sur les termes. Hein, donc, pour moi, pour être sûr que j'ai bien compris, et ensuite une question plus générale. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer la différence entre cyber-haine et cyber-violence? Également, quand vous employez le terme victime, en fait, comment les élèves se déclarent victimes? Quelle est la question qui vous permet, vous, de les classer en victime? Et ensuite, j'aurai une question plus large.
Alors, la cyber-haine est une forme de cyber-violence. Mais c'est une forme qui se distingue par le fait qu'elle agresse non seulement l'individu, mais aussi sa communauté d'appartenance, et par le fait qu'elle contribue à une détérioration de la cohésion sociale, puisqu'elle est basée sur de l'hostilité intergroupe. Au niveau, alors après la suite, c'était votre deuxième question?
Donc, il n'y a pas, juste pour rebondir, il n'y a pas…
Nous demandons aux jeunes s'ils ont été destinataires de messages qui allaient à l'encontre d'une communauté. Alors, on cite plusieurs types de communautés, mais en mettant des points de suspension. Et ensuite, nous leur demandons quelles étaient les raisons aussi de cette agression, couleur de peau, origine, religion, etc. Ce qui nous permet de définir s'ils sont victimes ou pas. D'accord. Donc, c'est de la déclaration, c'est de l'enquête de victimation. Hein, c'est auto-reporté et subjectif. C'est la façon dont ils ont vécu leur expérience.
D'accord. Merci beaucoup. Et dernière question, vous évoquez des différences notamment entre filles et garçons, et vous évoquez une piste de sensibilisation qui peut être différente donc, au moins pour les filles et les garçons. Est-ce que vous avez déjà des pistes à quoi est-ce que vous pourriez penser
Alors, au niveau des garçons, déjà, leur expliquer les risques d'aller rechercher des sites potentiellement dangereux et les effets de ce que l'on appelle la bulle filtre, c'est-à-dire qu'on sait très bien que quand on fait des recherches sur Internet, on reçoit des sollicitations en fonction des recherches que l'on a effectuées. Et aussi les sensibiliser sur les questions de sexisme, parce que bien souvent, quand les jeunes filles sont victimes, la réponse, je vais être crue, mais c'est telle qu'elle est livrée quand on rencontre les jeunes, de toute façon, c'est de sa faute, elle n'avait qu'à pas publier cette photo, c'est une salope. Y compris les filles qui ont ce type de commentaires. Et puis, en ce qui concerne aussi les garçons, bien, on se rend compte que les filles parlent plus facilement des difficultés qu'elles rencontrent que ces garçons pour des questions de statut et de représentation de la masculinité. Je pense aussi qu'il faut travailler sur cet aspect-là, tout comme il me semble primordial, et au vu des travaux qui sont menés, de travailler sur la question de l'homosexualité et de la banalisation de l'homophobie dans les commentaires et les interactions entre les jeunes. Après, la prévention doit se faire au niveau des jeunes, mais aussi au niveau des parents. Et là, dans le cadre des entretiens qui ont été menés auprès des familles et puis dans le cadre d'autres travaux, ce qui ressort de l'accompagnement parental, c'est que les parents se sentent démunis et que ce qui leur semble le plus, comment dirais-je, le plus efficace finalement, ce ne sont pas les réunions auxquelles on les invite, voire les convoque pour leur assener ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais les discussions et les échanges entre parents. Et toujours en termes de prévention, ce qui me semblerait le plus approprié, c'est la constitution de groupes de réflexion incluant à la fois les jeunes, les parents, mais aussi les professionnels, les travailleurs sociaux, les jeunes parce que ce sont eux les experts et ceux qui ont toujours un temps d'avance sur nous, et les parents parce que cela pourrait contribuer à leur sentiment de capacité, à leur empowerment, comme disent les Anglais, puisque de toute façon, ils vont chercher l'information auprès d'autres parents qui ont des jeunes un peu plus âgés. Et ces échanges entre professionnels, parents et jeunes pourraient peut-être donner une approche plus adaptée aux pratiques en ligne et à la prévention de certains risques. Ceci étant dit, on se rend compte que en termes de parentalité aussi, et j'insiste sur la parentalité puisque là nous sommes dans le cadre de la CAF et de la CNAF, les parents accompagnent les plus jeunes de façon de type contrôlant, c'est-à-dire que on s'intéresse surtout aux heures passées en ligne et non pas au contenu. Donc là, c'est un gros travail aussi à mener en termes d'information, mais bien souvent parce que les parents ne sont pas forcément au courant des contenus, et notamment chez les parents de niveau social le moins élevé. Les échanges s'améliorent avec l'âge. C'est-à-dire que à l'adolescence, les échanges sont plus basés sur des activités ludiques, la recherche d'événements ou d'événements récréatifs en ligne avec les jeunes pour des activités pendant le week-end, par exemple. Ce sont surtout les mamans qui sont impliquées. D'ailleurs, nous l'avons vu nous-mêmes dans le cadre des focus groupes qui ont été organisés. Et les papas, quand ils sont impliqués, s'impliquent au niveau des jeux. Voilà.
Si, Si je peux rajouter juste encore un élément de réponse sur la construction du genre, sur la question du genre fille-garçon, il est extrêmement important, à mon sens, de miser sur les formateurs, sur les éducateurs, éducateurs au sens large du terme, qui concernent à la fois l'éducation formelle et informelle, par exemple le milieu associatif, centre de loisirs, etc., et proposer davantage des formations sur la construction du genre, c'est-à-dire comment le genre se construit, comment on peut se construire, parce que cela, ça permettrait de anticiper un certain nombre de problèmes, je pense. Merci.
Après, les jeunes ne sont pas des naïfs, contrairement à ce que l'on pourrait penser. C'est-à-dire qu'ils savent eux-mêmes reconnaître en ligne les interlocuteurs potentiellement dangereux. Il y a des codes précis, cœur noir, X pour la pornographie, etc. Et donc, ils sont beaucoup moins naïfs que ce que l'on pourrait penser. En termes de contrôle de leurs activités, c'est quand même assez illusoire dans le sens où ils créent des comptes, des comptes parallèles. Il y a les comptes auxquels les parents ont accès et puis il y a les comptes qui représentent leur vraie vie en ligne.
Merci beaucoup pour ces réponses et encore merci pour cet exposé qui était extrêmement intéressant et détaillé. Merci beaucoup.
Merci Véronique.
Merci.
J'ai vu qu'il y avait une autre question de Virginie Gimbert. Je ne cache pas qu'on est un petit peu serré sur le temps. Donc peut-être la poser rapidement ou alors la garder pour une discussion plus générale tout à l'heure. Virginie Gimbert.
Oui, merci. Non, c'était juste pour une question sur la façon dont vous avez enquêté auprès de ces jeunes. Je voulais savoir si vous aviez aussi posé. Vous avez dit qu'il y avait 5% de personnes qui se déclarent victimes. Je voulais savoir si vous aviez posé aussi la question de est-ce qu'ils connaissent des. Voilà, est-ce que parmi leurs pairs, il y a ces phénomènes-là ? Parce que j'imagine que voilà, quand il y a un très proche qui est soumis à cette situation, ça a un lien fort, enfin, ça a un impact fort aussi pour eux.
Oui, alors ce sont à peu près 12% de jeunes qui sont victimes, 5% de filles.
Je pense que il y a un autre, elle se réfère peut-être aux 5% de victimisation entre pères, pas de victimisation en ligne.
Les formes de discrimination entre pères, les 5% de victimes, c'est hors ligne.
D'accord, oui, excusez-moi.
Oui. Par contre, nous n'avons pas interrogé les témoins, c'est-à-dire que nous n'avons pas posé la question de savoir s'ils étaient témoins et comment ils intervenaient, par exemple. Ce que j'ai fait dans d'autres recherches, mais pas dans celle-ci précisément.
D'accord,
et
merci.
Pour compléter un petit peu, mais rapidement, bien souvent, les jeunes disent ne pas intervenir. Ils disent ne pas intervenir, je parle pour la cyberhaine, parce qu'ils ne savent pas comment intervenir, et puis ils ont peur d'être eux-mêmes la cible d'agression. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la cyberviolence en général, quand cette cyberviolence donc concerne un membre du groupe, comme je le disais tout à l'heure, par exemple quand il y a une infraction à la règle du vivre ensemble au sein du groupe du réseau de jeunes constitué, là par contre ils tentent de gérer le problème entre eux.
Bien. Merci beaucoup.